troisième et dernier FIDMAG pour cette 22e édition du Festival international du documentaire à Marseille. Road Movie et Huit Clos, le fil rouge de ce plateau en direct et en public depuis le Théâtre de la Criée. Road Movie parce qu'on s'était dit, tiens, on a envie d'accueillir de ces trajectoires kilométriques, des flots de bougées, des lentes dérives ponctuées d'étapes au milieu de nulle part. Et puis, pour faire bonne mesure, on aurait bien eu aussi envie, par contraste, de Huit Clos, d'espaces étriqués où les corps se révèlent et se cognent. Road Movie et Huit Clos, le concept. Alors voilà, on a trouvé un road movie, sauf que s'il correspond plus ou moins au semblant de définition que je viens de donner, ce road movie n'est pas un road movie, enfin pas vraiment. Et la dernière chambre, The Last Room, second film qu'on accueille sur ce plateau, n'est pas non plus exactement un huis clos. Enfin, on n'est pas dans l'existentiel sartrien, là on serait plutôt dans la dystopie du côté de George Orwell. En revanche, le troisième film qu'on va accueillir sur ce plateau, Sibérie, est un road, ou plus exactement un rail movie. Et en plus, c'est le huis clos d'un couple dans le transsibérien. Parfait. Road movie et Last Room en Sibérie, sans bagnole américaine ni slide guitare. C'est pourtant avec grand plaisir qu'on va passer une petite heure en compagnie de Christophe Bisson, réalisateur de Road Movie, de Pierre Carniaud, réalisateur de Last Room, et de Joanna Price, réalisatrice de Sibérie. Au cours de cette émission aussi, des chroniques, des reportages, des entretiens, des rencontres, et Léo, garçon entreprenant qui se fait des films et qui sollicite des conseils. Salut Léo.
Salut.
Tu as rencontré Françoise Lebrun. Qui est Françoise Lebrun ?
Alors Françoise Lebrun, c'est la réalisatrice de Crazy Kilts. Et donc nous l'avons rencontrée, c'est une grande comédienne qui a été présidente du FID il y a 10 ans. Et elle présente son premier long métrage au festival et nous parle de son expérience derrière la caméra.
Et sans arrêt, je me fais des films.
Dernier épisode de Je me fais des films, avec aujourd'hui Françoise Lebrun qui a bien voulu nous donner quelques conseils et anecdotes liés à Crazy Quilt, son premier long métrage.
C'est une sorte d'autoportrait à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire que c'est un pan de mon un côté, comme ça, ça part d'une petite anecdote qui est 50 ans de correspondance avec une anglaise. C'est un sujet qui me travaillait depuis vraiment pas mal. Je fonctionne comme ça pour plusieurs choses que j'ai faites. J'ai fait des livres, des choses, et je sais que je garde des documents sans savoir pourquoi pendant des années, mais en sachant qu'il faut que je les garde. Et ça a été le premier matériau de base de travail. Donc il y avait d'abord des textes écrits par rapport à tout ça, et avec un fil, avec une idée comme ça, qui était un chemin. Donc ce qu'on peut appeler un scénario éventuellement. Hein. Et quand je dis arrive des surprises, c'est qu'au moment où moi j'avais prévu telle région, telle région, telle région, les retrouvailles avec ma correspondante anglaise, te voilà, oui, me voilà. Et c'est là où elle m'a envoyé un mail en disant, en caractère 16 gras, no name, no photographs. Ça m'embêtait quand même pas mal parce qu'il y avait cette histoire c'était le fil quand même, cette histoire de retrouvailles. Donc je lui ai réécrit en disant, mais attends, je cherche pas à raconter ta vie, je cherche à faire un parcours à travers tout ce qui m'a été donné par l'Angleterre. Je lui ai réécrit tout ça en disant, il y avait quand même eu le 16 gras avec no name, no photographs. Et elle me dit, oh, it's going to be so exciting. Je dis, oui, sûrement, mais je me méfiais beaucoup. Et donc on devait se retrouver, par exemple, dans le nord de l'Angleterre, qui est la fin du voyage. Et il a neigé énormément à Londres, enfin en Angleterre à ce moment-là, et elle n'a pas pu venir à cause de la neige. Donc ma fiction du départ a dû être changée. Et c'était je suis toute seule à essayer de retrouver des souvenirs qui n'existent plus. Et donc ça devient une autre histoire. Et je me dis, tant mieux, c'est mille fois mieux que toutes les deux en train de se faire « Ah, bonjour !» et puis regarder des photos ensemble. Je me dis, c'est pas plus mal, c'est bien mieux. C'est comme quoi, moi je trouve que j'ai eu énormément de cadeaux pendant ce tournage. C'est-à-dire que la vie a amené des choses qui étaient bien plus toujours plus intéressantes que ce qu'on peut imaginer. Hein. Donc, c'est vrai que si je m'étais bloquée là-dessus, j'aurais pas fait le film. Hein. Si on part, je dirais, en étant prêt à recevoir une modification de l'histoire qu'on a envie de raconter, même si c'est ce qu'on appelle un documentaire, il se passe des choses vraiment tout à fait passionnantes à ce moment-là. Et je trouve ça plus intéressant que ce que j'avais pu imaginer. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois garder l'énergie de la nécessité de faire un film, savoir vraiment, enfin, on ne sait jamais pourquoi on fait un film vraiment, mais en tout cas, essayer de ne pas se raconter d'histoire. Et puis, c'est comme si on a un attelage avec deux chevaux. On a un cheval qui est fougueux, qui part, et l'autre qui est peut-être plus lent, mais plus résistant. Et il faut arriver à faire un attelage avec les deux. C'est-à-dire à la fois maintenir son énergie de désir, et en même temps le seconder par le travail. Moi, je crois beaucoup au travail. Il ne s'agit pas de montrer le travail, mais je ne pense pas que les choses tombent du ciel. Il y a des choses qui tombent parce qu'on s'est mis en état de les recevoir. C'est le travail, ça aussi. Donc c'est vraiment essayer de faire deux. Et je crois qu'il y a une chose vraiment importante aussi, enfin moi je constate, c'est l'histoire du compagnonnage de travail. Ça c'est vraiment, vous êtes dans les âges où ça se met en place. Et c'est vraiment très précieux, ça prend du temps. Ça peut prendre 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, ça prend du temps pour vraiment se retrouver avec des réseaux de compagnons de travail. Mais ça, c'est une chose vraiment importante, de se faire des familles.
Françoise Lebrun, une grande dame du cinéma, évidemment, on pense au film de Jean Eustache, au micro de Léo Bulté. Il est absolument immobile. Ce sont les premiers mots que j'ai griffonnés sur mon calepin pendant la projection de votre film, Christophe Bisson, avec mon petit stylo qui éclaire en bleu. Ce « il » immobile, c'est un des résidents d'une maison commune, le foyer Léon Richet. Alors qui sont-ils, ces « ils », qui ne sont pas tous immobiles d'ailleurs ? Oui, Christophe Bisson.
Bonjour, et merci pour votre accueil. Un plaisir d'être ici. J'ai tourné ce film dans un institut psychiatrique qui est en fait une petite structure associative, c'est pas une structure hospitalière, et c'est une structure qui s'inscrit dans le champ de la psychothérapie institutionnelle, c'est un mot un peu savant, et qui est reliée au centre de la Borde où exerce Jean Houry et où Nicolas Philibert a fait un film qui s'appelle La moindre des choses. Voilà.
La Rhôde, c'est peut-être celle qui va de l'un à l'autre, d'étape en étape, d'ailleurs en ailleurs, de personne en personne, dans ce foyer. Ce foyer où les gens sont étranges, mais ne nous semblent pas étrangers. Ils sont un peu dédoublés. Il y en a un d'ailleurs qui a la double nationalité. Double, dédoublé. Au fond, ils nous tendent un miroir, ces gens. C'est un peu nous, vous, que vous filmez à travers eux.
Non, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est un peu à la racine des peurs qu'on peut éprouver face aux personnes qu'on dit folles. Enfin, c'est peut-être la peur du fou en soi qui fait peur et qui fait qu'on rejette.
Ce sentiment bizarre d'avoir à la fois une grande complicité avec eux et en même temps quelque chose d'un peu opaque, au-delà duquel on a du mal à aller.
Alors bon, c'est vrai qu'eux souffrent de psychoses très graves. Hein, donc bon, on n'a pas de représentation de ce qu'ils peuvent vivre. Hein. C'est quand même une grande différence. Hein. Ils sont quand même dans un enfermement, une souffrance dont on n'a même pas idée. Mais cela dit, moi je crois qu'effectivement, qu'on a tous, dans des moments de nos vies, que ce soit des moments de deuil, de rupture ou des moments dépressifs, on peut être amené à être dans des zones en soi, enfin un peu régressives, qu'on ne maîtrise pas.
Comment vous les avez abordés ? Peut-être avec d'abord une rencontre, un travail d'approche, ou est-ce que d'emblée vous avez commencé à tourner ?
Alors, moi je travaille au foyer Léon Richet depuis 10 ans en tant qu'intervenant en art plastique. Je suis d'abord peintre, donc je connais ce lieu. Et alors, il y a la durée que j'ai passée là-bas, mais il y a aussi, si vous voulez, le premier regard que j'ai dépassé. Le premier regard, quand on entre dans un institut psychiatrique, il est assez... c'est de la stupeur, c'est de la peur, c'est de l'effroi. C'est vrai, on rencontre des gens qui ont des visages, pas comme tout le monde, on a un peu peur, on ne sait pas trop. Et ce premier regard, moi, je l'ai dépassé, parce que je suis entré en relation avec ces patients. Il s'est donc passé autre chose dans le face-à-face. Nos regards se sont croisés, on a eu des échanges de paroles, j'ai vu autre chose que la maladie. Et donc, on a vraiment tissé des liens, personne à personne. Et ce film porte la trace de ce cheminement personnel que j'ai eu.
C'est vous qui filmez, mais est-ce que vous avez eu la tentation de leur confier la caméra ?
Oui, on l'a fait, je l'ai fait. Mais le film s'est transformé, c'est devenu autre chose. J'étais assisté de patients. C'était un projet collectif. C'est-à-dire qu'eux ont déposé quelque chose qui leur est propre, qui ne m'appartient pas, ça leur appartient. Et moi, j'ai investi ce film avec mon regard.
En tout cas, entre absence et présence, et plutôt présence, au fond, ils ont une façon étonnante d'être présents dans l'espace, devant la caméra.
Ah oui, oui.
Ça, c'est vraiment étonnant ce que vous arrivez à capter dans ce film, de leur présence.
Ah oui, mais je suis content que vous disiez cela, que vous l'ayez vu, parce que c'est vrai. Il y a cette intensité de présence qui est assez exceptionnelle. Ce garçon qu'on voit de dos sur un banc au bord d'une rivière, il tient quand même une durée de 2 minutes sans bouger et sans que sa présence s'affaiblisse. C'est assez extraordinaire. Moi, je suis content quand même d'avoir... Enfin, j'ai le sentiment que je l'ai touché, peut-être que je me trompe, mais d'avoir touché quelque chose qui est de l'ordre de l'être au monde, leur être au monde, à eux. Et non pas, je ne les ai pas abordés de manière thématique en projetant ma pensée de la folie, qu'est-ce que c'est que la folie, la psychose. Bon, on est du côté de la présence et de l'absence. Cette oscillation entre présence et absence, je crois qu'elle apparaît dans le dernier plan du film avec ce pinceau qui bat au-dessus de la feuille blanche, qui s'arrête, qui se suspend.
On va en reparler tout à l'heure, c'est une séquence magnifique de ce film sur leur rapport à l'art justement et à la peinture. Une autre oscillation peut-être dans ce film, c'est jouer, pas jouer. Ils sont tels qu'en eux-mêmes ou des fois ils jouent quelque chose pour vous ?
Oui, enfin ils jouent. C'est de la mise en scène documentaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans où j'ai fait des placements, mais après ils ne tiennent pas les consignes, ça devient autre chose. Il faut laisser faire. Notamment le premier plan, le plan de l'ouverture, j'ai fait des placements, mais ils n'ont pas bien compris les consignes. Ça partait dans tous les sens. Et justement, ça a donné une sorte de chorégraphie assez libre.
Pas de road movie sans fête à Lampion. Alors, il y a une fête à Lampion dans ce film. Oui. On danse, on s'éclate, on se maquille. C'est fragile et c'est humain, c'est pudique. Alors justement, sur la pudeur, sur les limites de quoi filmer, ce qui pourrait parfois mener à l'empathie, voire au voyeurisme, donc plutôt à éviter. Comment est-ce que vous décidez de filmer ou de ne pas filmer, et puis après de garder ou de ne pas garder au montage ?
Là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dépassé le premier regard d'étonnement et de stupeur sur eux. Et donc, pour moi, il s'est pas agi de montrer, regarder comment ils sont fous. Faire une galerie de portraits, de gueules, ça s'est beaucoup fait dans des films sur la psychiatrie. On en reste comme ça à premier niveau. Moi, je crois que j'ai filmé des visages. Et ce sont des visages qui apparaissent, c'est d'ailleurs des visages qui s'ouvrent à partir de leur propre fond.
On se retrouve dans quelques minutes avec Christophe Bisson autour de son film Road Movie, mais pour l'instant, la chronique de Clément. Salut Clément.
Bonjour.
Pain is.
Alors oui, depuis tout à l'heure, vous parlez de corps, d'intensité, de questions aussi de distance de la caméra vis-à-vis de ce qu'on filme. Je pense que le film dont je vais vous parler ce soir, qui s'appelle Pain is, n'est pas étranger à toutes ces questions-là. C'est un film... Donc,
oui. Tout de suite, Pain is.
C'est ça, ça pose la question donc de la douleur. La douleur, c'est trois, il pourrait y avoir trois petits points à la fin de ce, de ce titre-là, parce que là, c'est une question qui reste en suspens. Donc, c'est un film de Stephen Dowskin qui a été projeté cet après-midi à la Criée, qui nous interroge sur la douleur, celle qui s'éprouve, celle que l'on fuit en tant que corps, cette machine désirante poussée par la recherche du plaisir. Alors, on connaissait le cinéma de Stephen Dowskin qui se fabrique à partir de sa propre expérience, celle de la douleur menée dans un corps défaillant. Et il trouve ici la bonne distance, justement, ni clinique, ni misérabiliste, ni trop empathique, mais il se pose comme un complice pour nous donner à voir et à penser la douleur. Alors, dès le début du film, une voix off nous questionne : la douleur est-elle une émotion ou une sensation physique ? Une question qui souligne bien sûr qu'il est très difficile d'expliquer à autrui une douleur que l'on ressent et que l'on peut éprouver. Peut-on imaginer une image de la douleur ? Et si oui, quelle serait-elle ? Si la douleur n'est pas visible, les mots peuvent-ils permettre de l'expliquer ? Les mots peuvent toujours essayer, mais on ne peut comprendre ni ressentir la douleur éprouvée par quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ce pari que relève Dowskin qui, à travers son montage, par des plans resserrés, à fleur de peau, parfois choquants, par des regards crispés, fuyants, des corps qui transpirent et des yeux écarquillés, Dowskin essaye de nous donner à voir cette image de la douleur, celle qui s'éprouve bien au-delà des mots, filmée caméra au poing, dans un cadre intimiste, proche de ceux qui y ressentent. Mais plus largement, il nous pose la question suivante. Pourrait-on vivre sans la douleur ? Une douleur qui, même si elle peut être minime, nous rappelle que nous avons un corps, fait de désirs contradictoires. Une douleur qui, comme le pôle négatif d'une pile alcaline, renforce notre puissance de vie et notre désir de persévérer dans l'existence. Alors, au fur et à mesure du film, les personnes interrogées, pas toujours clairement identifiées, que l'on imagine être médecin, patient, sportif, amateur de SM, essayent dans l'universalité de la douleur de définir, avec le plus de précision possible, leur façon de la ressentir. Elle est par définition ce qui fait mal. Elle peut être mentale ou physique, aiguë ou chronique, biologique ou imaginaire. La douleur peut être publique, elle peut également être privée. Mais elle demeure toujours plurielle, insaisissable et pourtant terriblement ressentie. La douleur ne prévient pas, elle arrive et peut ne plus nous quitter. Nous cherchons alors à lui donner un sens. À donner un sens à la douleur qui, inexplicable, ne serait pas supportable si elle n'avait pas une cause singulière et un but précis. Elle dépend du ressenti de chacun et de la manière de l'exprimer, et donc chaque culture considère la douleur à sa manière, comme une punition divine ou comme une preuve de courage. Paynes nous interroge sur notre rapport à la douleur en questionnant également la médecine, celle qui nie la douleur dans sa dimension plurielle, subjective et ressentie. La douleur pour les médecins n'est pas véritablement prise en compte au-delà de leur diagnostic entre un corps fonctionnel et un corps qui ne fonctionne plus. La douleur doit donc être visible, posséder des causes biologiques et physiologiques, sinon elle n'existe pas. Elle ne peut exister que dans la tête de celui qui l'éprouve. Comment percevoir alors cette douleur invisible que les mots ne peuvent même pas expliquer ? Comment évaluer, mesurer la douleur qu'éprouve un patient ? Comment peut-on quantifier un niveau de douleur lorsque, entre 2 degrés, il n'existe qu'une dose supplémentaire de douleur ? Et on s'aperçoit que la négation par autrui de la douleur que l'on peut éprouver au plus profond de notre chair entraîne une remise en cause radicale de notre corps, de notre ressenti et donc de notre identité. Certains malades que l'on voit dans le film qui sont atteints de migraines chroniques, sans que la médecine ne puisse diagnostiquer la cause, aucun dysfonctionnement biologique, aucune anomalie physique, finissent par se suicider pour se libérer de cette souffrance atroce, inexpliquée et presque inexistante pour le reste du monde. Ce film invite donc la médecine à considérer la douleur avec un regard, un œil nouveau, au-delà d'une simple dichotomie entre le normal et le pathologique. On pense également à la question de l'euthanasie, qui pour les personnes qui souhaitent y avoir recours, la mort est une véritable libération face à une souffrance, une douleur physique, psychologique, quotidienne, intenable. Derrière la caméra défilent différents personnages, certains atteints de maladies lourdes qui témoignent de leur gestion de la douleur au quotidien, une domina, des adeptes de SM, des proches de personnes souffrantes, des sportifs, une trapéziste pour qui l'action et l'adrénaline font disparaître la douleur lorsqu'elle est sur scène pour son numéro. La douleur peut se percevoir alors comme une question d'intensité, vous en parliez tout à l'heure. Elle n'est peut-être ni positive ni négative, mais apparaît comme un nœud de notre expérience en tant que corps. Certains affirment ressentir une douleur plaisante, étrange oxymore qui souligne qu'une douleur clairement définie, sur laquelle nous pouvons agir pour la dissiper, une douleur contrôlée peut être agréable et plaisante. C'est la vision en fait que défendent les adeptes du bondage et autres pratiques sadomasochistes. Par le contrôle de la douleur elle-même devient une façon de se mesurer à soi-même, comme un exercice de force mentale et physique qui recherche le dépassement de notre corporealité, de notre corps. Une vision de la douleur qui est également partagée dans une moindre mesure par la trapéziste qui témoigne dans le film, ou ces sportifs de haut niveau pour qui la douleur fait aussi partie de leur quotidien. La douleur comme un nœud d'intensité de l'existence que notre corps éprouve par-delà le bien et le mal, la douleur comme jeu, comme la frontière à laquelle notre corps peut se frotter, rappelle ces mots de Balzac, le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Alors comme une longue interrogation philosophique, image à la pluie, sur la douleur que tous nos corps peuvent éprouver, imaginer et exprimer, Pénis est un film époustouflant de Stephen Dostkin qui nous interroge plus que jamais sur notre rapport avant tout à notre corps. Et c'est peut-être, Xavier, je l'avoue, mon coup de cœur de cette 22e édition du FID à Marseille.
Merci Clément. Un film qui n'est plus projeté, évidemment, puisque cette 22e édition du FID s'achève dans quelques heures à peine. Retour autour du film de Christophe Bisson, autour de Road Movie, pour ce dernier FID Mag, en direct depuis La Criée. Alors, à un moment, Christophe, on se dit, ça y est, la Road, la voilà. Chacun sa route, chacun son chemin, un chemin. Au bord d'une rivière, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure de cette séquence. Au bord, borderline, il est assis et vous le filmez de dos. Le fil de l'eau emporte ses pensées que personne n'entend, que personne ne comprend. Il y a aussi un huis clos, au fond, finalement, dans ce road movie, quelque chose d'inapprochable dans leurs pensées.
Oui, alors c'est vrai qu'on...
C'est au fond un film sur l'enfermement aussi. Un peu.
Oui, c'est l'enfermement. Alors c'est vrai que on peut penser que la folie, c'est une forme d'enfermement, la pire forme d'enfermement qui soit. C'est l'enfermement en soi. On est coupé des autres, du monde, du dehors. Et une sorte d'effondrement sans fin, en soi, sans bord, sans contour. Donc c'est terrible. C'est le pire cauchemar de l'enfermement. Huis clos, ça peut être l'enfermement dans l'institution, enfin les murs de l'institution.
En l'occurrence, elle n'est pas carcérale. Hein. Ces institutions peuvent sortir, c'est
oui,
très
oui,
ouvert.
C'est ouvert, mais alors ça pose aussi un problème, enfin, au niveau du seuil entre le dedans et le dehors. Et le seuil, c'est le lieu d'hésitation entre le dedans et le dehors. Comment se mettre en mouvement pour sortir dans ce dehors menaçant, irreprésentable, avec tous ces gens qu'on ne connaît pas, sans visage. Bon. Et donc, effectivement, il y a un moment important dans le film, vers la fin, où un des personnages pousse la porte et peut-être effectivement commence le road movie, comme vous disiez.
En tout cas, un des espaces d'échappée de ce film, c'est la peinture. C'est leur travail de peindre, pour lequel ils ont une concentration absolument incroyable et une infinie délicatesse du geste. Vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Bisson, cette séquence finale du film, de dessiner un nuage avec de tout petits coups de pinceau infiniment répétés, une image magnifique. Road Movie de Christophe Bisson, bientôt distribué, Christophe ?
Je ne sais pas.
Souhaitons-le, en tout cas. Dans quelques minutes, on va évoquer un autre film, Huis clos, de Pierre Carniaux, dans ce feed mag. Mais tout de suite, on va écouter la chronique de Lucie. Lucie a le bigou. Alors d'habitude, elle essaye d'articuler deux films différents dans sa chronique, mais cette fois-ci, c'est un petit peu autre chose. Rebonjour Lucie.
Bonsoir Xavier, c'est beaucoup moins intello que des films, c'est juste les tendances vestimentaires du feed de cette année, et puis mon palmarès des noms de films les plus bizarres. Ah. Alors, le film ferme ses portes ce soir, c'est l'heure des bilans, donc retour sur cette 22e édition et les tendances de cette année. Alors, le feed, c'est des films, une sélection internationale et nationale, des rencontres avec des réalisateurs, des tables rondes, des projections, des débats autour du cinéma documentaire et de fiction. Mais le feed, c'est surtout un palmarès vestimentaire unique, un florilège de tendances, bref, la mode comme vous ne l'avez jamais vue. La tendance cette année est à la jupe, surtout à la robe. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment nouveau comme type de vêtement, mais cette année, la robe courte fait fureur. Après les étés 2009 et 2010 et la tendance robe très longue qui arrive jusqu'aux pieds, les tissus raccourcissent et offrent cette année une vue imprenable sur la plastique avantageuse des festivalières. La robe se fait légère, aérienne, les tissus rivalisent de transparence tout en affichant des couleurs franches et gaies. On note un retour particulier de la petite robe Emmaüs, vintage mais pas trop, avec des fleurs années 60 et souvent une couleur un peu surannée, bleu turquoise, vert bouteille, rehaussée de touches roses ou oranges. La petite robe Emmaüs a l'avantage d'être bon marché à l'achat, solide, elle vous durera des années et ne sera jamais démodée car elle l'est déjà. L'avantage des festivals qui ont lieu l'été, c'est que le spectacle n'est pas seulement dans la salle, mais aussi à l'entrée, sur le perron de la criée, sous le soleil impitoyable du mois de juillet. On peut donc aisément admirer les corps pulpeux des festivalières, la fidette parfaite est vêtue avec soin, tout en laissant quand même une place au naturel. Elle est assez grande, bien foutue, sans être bimbo. Elle a mis aujourd'hui un petit short en lin, qui laisse deviner rien du tout en fait, on ne devine rien, car tout est sous nos yeux S-body. En haut, elle a mis un petit t-shirt qui dénote avec le short en lin, sur une matière très naturelle, sûrement du coton bio, un imprimé mystérieux, une forme bizarre avec un nom japonais, sûrement le nom du couturier qui a créé le vêtement. À côté d'elle, le fideux idéal. Il est grand lui aussi, il a opté pour la sobriété, jean de marque de préférence, mais pas trop cher non plus. T-shirt d'un festival de cinéma argentin, il porte des lunettes aux armatures noires et anguleuses, la barbe de quelques jours, et des cheveux qui sont soit légèrement ébouriffés, soit inexistants. Bref, un petit air de designer berlinois. Voilà pour l'habillement, passons maintenant aux accessoires, le sac et l'instrument indispensable du fideux ou de la fidette. Deux solutions, son sac personnel ou le sac du festival qu'on lui a offert avec son pass. Le sac du festival, cette année, est designé par Agnès B. C'est un sac en toile, taille A4, avec l'affiche du festival imprimée dessus. On peut quand même noter la rare audace de la création d'Agnès B, le choix des matières, la jute, pour un esprit écologique, un design révolutionnaire. C'est vrai que ce genre de sac en toile n'avait jamais été vu auparavant dans aucun festival du monde entier. Le sac du festival se porte négligemment sur l'épaule, on peut y fourrer le programme, le catalogue, son carnet pour prendre des notes et des contacts, pour élargir son réseau, comme ce producteur finlandais rencontré à l'instant, qui se lance dans un projet de coproduction avec la Macédoine autour d'un film sur les orphelins de Baba Yastanech, un village déshérité marqué par la guerre. Bon, mais là je m'éloigne du sujet. Voilà donc pour les tendances vestimentaires, j'ai dû oublier le documentaliste à la retraite, qui reste lui fidèle à son short décathlon et à ses sandales quechua. Mais le feed, ce n'est pas seulement la mode, c'est quand même avant tout des films et des réalisateurs que le grand public ne connaît pas souvent. On se reporte donc sur le nom du film pour se faire une idée de ce qui nous attend dans la salle, mais là, c'est pas toujours facile. C'est pourquoi je vous propose mon palmarès personnel des titres de films de cette 22e édition du feed. Le titre le plus long. L'Anabase de Mai et Fusako Shinegobu, Masao Adachi et 27 années sans images. Alors allez vous faire une idée du film avec un titre pareil. Et puis quand vous prenez votre billet à l'entrée, je voudrais s'il vous plaît une place pour L'Anabase de Mai et Fusako Shinegobu. Voilà, je vous mets donc au défi. Titre le plus court, c'est 3 lettres, c'est facile à retenir. Ah non, le sous-titre du film est Out, entre parenthèses. Voilà qui nous éclaire, merci. Le titre le plus abscon, alors là, notre jury n'a pas pu départager Seeker Than Paint Sinner, en français plus épais que le diluant, et l'hypothèse du Mokele MBB. Voilà. Le titre le plus inspirant, alors là, c'est Le soulèvement commence en promenade. Voilà, ça, ça me plaît bien comme genre de phrase. Et d'ailleurs, je vais de ce pas suivre cet adage après une semaine de feed. On a vraiment envie de promenade dans un monde qu'on regardera forcément différemment, nourri du yeux des autres, avec nos yeux à nous, eux, toujours plus avides de lumière.
Merci Lucie. À ceux qui penseraient que le FID est un festival un peu austère et très intello, on se rend compte qu'on peut aussi l'aborder avec beaucoup de légèreté, la preuve en est faite. On va maintenant parler de Last Room, un film de Pierre Carniaux. Last Room, c'est un regard sur le Japon des invisibles, des petites gens, des fourmis qui usinent dans la fourmilière d'une économie un peu malade, des destins comme celui d'un grand-père qu'il transmet ou tente de transmettre à ses descendants. Il a été esclave en Corée, déporté, exploité, torturé. Des témoignages de gens qui souvent vivent dans des hôtels capsules. Ça, c'est pour le huis clos et qui est vraiment très clos, pour le coup, dans ce film. Alors, Pierre, comment est-ce que vous avez rencontré, croisé ces personnes? Vous avez hanté les hôtels capsules pendant plusieurs mois à Tokyo, Pierre Carniaux?
Pas du tout. Alors, en fait, j'ai travaillé avec une compagnie théâtrale japonaise il y a déjà 10 ans de ça à Paris. J'ai noué des amitiés.
Quelle compagnie?
La compagnie Seinen Dan de Horiza Hirata.
Qu'on a eu le plaisir d'accueillir à Marseille à plusieurs reprises.
Absolument. Donc, je fais partie de la première création en Europe de sa pièce Tokyo Note, avec une autre distribution que celle de sa propre compagnie. Et à la suite de ça, j'ai noué des amitiés avec des Japonais qui m'ont invité une première fois comme photographe en 2002. Ensuite, j'y ai été engagé comme comédien avec... une autre compagnie qui s'appelle Chiten. Et donc j'ai joué là-bas et j'ai travaillé plusieurs fois comme comédien là-bas. Évidemment, c'est une expérience qui m'a fait entrer plus en avant dans le pays, dans la langue, etc. Donc en fait, entre 2002 et 2007, j'ai passé entre 3 et 6 mois au Japon tous les ans. Et toutes les personnes qui sont présentes dans le film n'habitent pas dans ces hôtels capsules ou dans ces love hotels. Je pense que ça aurait été extrêmement compliqué si j'avais simplement frappé à la porte des chambres et demandé à ces gens de me livrer des choses aussi intimes sur leurs existences. Donc c'est toutes les personnes qui sont dans mon film, ce sont des acteurs que je connais depuis donc de nombreuses années. Et de par cette amitié, ils m'ont donné leur confiance.
En tout cas, les personnages qu'ils incarnent, ce sont plutôt des travailleurs pauvres, des working poor. Au fond, c'est plutôt ça, ce regard que vous portez sur le Japon.
Alors en fait, ils sont acteurs, mais ils ne jouent pas. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils parlent véritablement de leur propre vie.
De leurs conditions.
Et quand on est comédien au Japon, y compris quand on travaille dans une compagnie aussi prestigieuse que celle d'Oriza Hirata, on est le plus souvent obligé de travailler aussi comme serveur ou comme réceptionniste de nuit, etc. etc. Donc tous ces petits boulots qu'ils appellent arbaito, qui fait qu'ils ont des vies absolument épuisantes où c'est 8 heures de répétition et 8 heures de job alimentaire.
En tout cas, on sent aussi de leur part la peur de perdre du boulot, le sentiment de la précarité. Alors ici, on a pour quelques temps encore peut-être un statut d'intermittent du spectacle. Je pense qu'au Japon, ça n'existe pas du tout et qu'ils ont une conscience de la précarité sûrement encore ça plus dure que la nôtre.
Ça n'existe pas et puis ce n'est pas prêt d'exister puisqu'après après les événements tragiques du mois de mars, évidemment, les premiers budgets qui seront supprimés au Japon, ce sera évidemment celui de la culture.
Les événements tragiques, c'est en l'occurrence Fukushima.
Absolument.
Qu'est-ce que ça a déclenché comme sentiment à l'intérieur du Japon? C'est une psychose en ce moment? Enfin, je ne sais pas si vous y rentrez depuis.
Je pense, j'y suis pas retourné depuis assez longtemps. Évidemment, moi, ça m'appelle. Maintenant que le film est terminé, j'ai besoin de le montrer aux personnes qui l'ont fait. Avec moi. Ensuite, les nouvelles que j'ai, c'est qu'évidemment, le pays que j'ai connu n'existe plus. Et je ne parle pas seulement des paysages, je parle vraiment dans la conscience des gens.
Du cœur ou de l'esprit commun ou collectif de ce pays.
Oui, mais évidemment, je pense qu'on sera étonné de voir à quel point ils seront vivants et bien vivants.
En tout cas, dans une capacité de surmonter cette catastrophe-là, comme tant d'autres, hein, tremblements de terre ou guerres. Si le destin du pays est en ce moment un peu sur la balance, il y a des destins individuels aussi qui sont absolument terribles dans ce film. Il y en a un notamment qui est évoqué, encore une fois, à propos de ces love hotels ou de ces hôtels capsules, celui d'une femme qu'on a retrouvée morte sous un matelas. Et on n'a juste pas remarqué qu'elle était là parce qu'elle faisait à peine une toute petite bosse sur ce matelas, donc on s'est assis sur elle. C'est une histoire vraie ?
C'est une histoire vraie, c'est un fait divers que j'ai découvert en lisant le journal pendant la préparation du film. Et vous parliez d'un Japon des invisibles. Je ne sais pas si c'est spécifiquement le Japon, je ne pense pas que le film parle. Il y a une femme hier qui me disait « j'ai vu votre film ». Au final, ça ne m'a pas vraiment parlé du Japon, ça me parle plutôt du monde en général. Mais effectivement, ça parle notamment d'invisibles et de gens qui meurent et qu'on ne remarque pas.
De gens qui meurent et aussi de gens qui vivent. Une petite phrase qui est en exergue de ce film. Voir ce qui est étonnant dans le seul fait de vivre, c'est un petit peu ce qui guidait votre caméra pour ce tournage.
Ça c'est une citation de Maurice Maeterlinck du Trésor des Humbles. Effectivement, ce que disait aussi Jean-Pierre Rehm, directeur du FID, en écrivant sur mon film, aucun témoignage ne prétend à l'exceptionnel. C'est où Georges Perec disait, on s'intéresse toujours aux trains lorsqu'ils ont déraillé, alors que juste regarder sa poche et ce qu'il y a dans sa poche, faire l'inventaire de ce qu'il y a dans sa poche, c'est quelque chose en soi d'extraordinaire et d'incroyable.
Au-delà du destin individuel, de ce que vous croisez dans ce film, c'est aussi une espèce d'état des lieux global de l'économie globalisée vue depuis le Japon. En conclusion, c'est un gros malaise, c'est une économie qui ne va pas bien du tout et la globalisation, elle est là vraiment sauvage.
Oui, bah dans le film, le film s'ouvre par l'image d'une île en ruine au milieu de l'océan qui s'appelle Gunkanjima, qui est donc en fait une île qui a été... on a découvert qu'il y avait du charbon là-bas à la fin du 19e siècle. Mitsubishi l'a acheté, il a fondé une usine. Ça a été un endroit où... qui a eu la plus grande densité de population sur Terre à un moment donné. C'est aussi un endroit qui a servi pendant les périodes de guerre de camp de travail. Et...
C'est ce que raconte d'ailleurs hein, cette famille de Coréens. Je pense que c'est là où ce grand-père a dû
Alors,
travailler.
Il n'était pas précisément à cet endroit-là, mais il aurait pu y être. Et cette île, effectivement, pour moi, est une image... de l'économie de marché exacerbée à son paroxysme.
Une économie qui est à la fois très ouverte, cette globalisation et cette mondialisation l'imposent, mais en même temps un pays qui a une grande tradition de repli sur soi, de huis clos. Est-ce qu'au fond le Japon, c'est une sorte de grand huis clos ?
Je ne sais pas, parce que le Japon aussi, cette capacité de prendre tout ce qu'il y a de très bon ailleurs et de le faire mieux, de le refaire mieux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour avoir décrit quelques éléments de ce film, Pierre Carniaud. On va tout de suite écouter la chronique de Julie. Salut Julie.
Salut.
Alors c'est la fin du feed.
Oui, donc moi, pour cette dernière journée, j'ai décidé de changer un petit peu la formule. Plutôt que de faire une sortie de salle, j'ai fait une sortie de feed. Donc tout au long de la journée, je suis allée un peu à la rencontre du public pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient aimé dans cette 22e édition du feed. Donc écoutons les réactions.
This should be interesting.
C'est la première fois que je viens au FID. Enfin, moi, je suis très, très contente. Le programme, le côté un peu expérimental de certaines séances m'intéresse bien. J'ai vu hier Shoot Me, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Même si le propos, les enfants des rues, n'est pas très original, mais la façon d'avoir laissé la caméra et la façon dont les enfants sont tournés en gros plan, mais surtout cette énergie qui sort de ce film, ça m'a beaucoup plu.
Disons, globalement intéressé, mais sans découverte marquante, quoi. Voilà, je dirais ça.
Mais j'ai bien aimé les réflexions qu'il y a eu autour des écrans parallèles en chantier par rapport aux révolutions arabes. Je pense que c'était important et que cette actualité soit montrée. Après, j'ai vu des belles petites perles, souvent des films assez courts qui ne dépassaient pas les 20 minutes, ils m'ont plutôt marqué en fait. Que ça a l'air assez atypique quand même, parce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale dans ce festival, c'est vraiment des œuvres à part entière, quoi. Parfois des ovnis.
C'est la première fois que je viens, donc je sais pas, j'ai pas de comparaison par rapport aux autres années, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était de bonnes projections. Je trouvais que ça manquait un peu de fraîcheur, on va dire. Je trouvais que les formes documentaires, qu'elles soient fiction ou documentaire, étaient quand même assez classiques, on va dire très posées, mais peut-être trop propres pour certaines. Très sombre, voilà, il y a aussi ça qui ressort. Un constat peut-être d'échec de la société, très pessimiste. Dans ce film sur le pétrole qui prend à droite à gauche des images de YouTube avec des collages, voilà. Donc certaines productions qui se rapprochent plus de la fiction que du documentaire. Du mal à se positionner par rapport à ça.
Je pense qu'au bout d'un moment, de toujours se défendre sur qu'est-ce que c'est le documentaire, c'est enquiquinant, quoi, parce que ça implique une forme, ça implique surtout un fond, en fait. Et le cinéma n'a pas besoin de se justifier sur le fond qu'il donne, qu'il montre. Et je pense que la sélection de cette année supporte vraiment cet engagement-là, plutôt international, en fait, que documentaire. Et de toute manière, c'est vraiment plus des choix cinématographiques pour les enjeux de fond et de forme qui sont faits que pour un genre, en fait, classé dans le documentaire. Ce qui était déjà le cas sur les anciennes... sélection sur les anciennes programmations. Et là, il y a une vraie grosse affirmation en fait d'international, de cinéma en fait international et de qu'est-ce qui se passe partout, qu'est-ce que c'est les enjeux actuels du cinéma mondial. Pour les programmateurs du film, je pense que c'est le cinéma qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'être montré quoi.
Ouais, je trouve que la programmation est plutôt très bien cette année, avec des choses assez différentes. Des choses qui sont vraiment très documentaires, sur des sujets assez précis. Le film iranien, le Moving Up, très beau, qui est très touchant, sur cet homme qui essaie d'écrire et qui se confronte à plein d'obstacles. Assez beau dans la fragilité en fait, de l'acte de créer, et sur tout ce que ça implique sur la vie de quelqu'un. Il y a le Grand Rieu qui parle vraiment du cinéma et aussi par rapport à ses cadres et l'omniprésence de la musique, un rythme, quelque chose aussi d'assez, de très ténu et en même temps fragile, qui est assez beau, je trouve.
Il y a pas mal de déceptions sur la programmation. Enfin, disons qu'il y a des choses excellentes et des choses on se demande pourquoi elles sont là. Moving Up, voilà, qui a été bien encensé, j'ai l'impression, aussi par le public. Le film de Philippe Gandrieux, qui était très très intéressant à tout point de vue, au niveau de l'image et tout ça. Donc après, c'est vrai que c'est décevant de voir des films faits avec des images d'archives. On a vu beaucoup de films avec des images d'archives et des fois, on se demande si les gens pourraient pas aller dehors, filmer des vrais gens et ne pas utiliser des archives tout le temps. Par contre, moi j'ai vu les trois disparitions de le film libanais hier soir. Ça, c'était avec des images d'archives, mais par contre, c'était très fort.
Merci à Julie pour cette chronique qui n'était pas une sortie de salle, mais plutôt une sortie de feed. On entend buzzer autour de quelques noms, mais peu importe, sur ce plateau, c'est pas tellement les compétitions qui nous importent que les films et leurs réalisateurs ou réalisatrices, puisqu'on va maintenant accueillir Johanna Price pour parler de son film Sibérie. On est toujours au Théâtre de la Criée pour ce dernier, sixième et dernier feed mag. Alors, Sibérie, je le disais tout à l'heure, c'est un road movie, ou plus exactement un rail movie, mais aussi un huis clos. On est dans un train. C'est le Transsibérien, Johanna ?
Oui. Oui, c'est le Transsibérien. En fait, on est parti de Vladivostok jusqu'à Ulan-Ude. Mais dans le film, on a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, en fait.
Un film qui joue effectivement sur la durée, sur la longueur. Un huis clos aussi au sein d'un couple, le couple que vous formez vous-même et le réalisateur Bruno Dumont. Alors, est-ce que c'est pas prendre un peu des risques pour un couple que de jouer ce huis clos-là, c'est-à-dire de se donner une caméra chacun et de se filmer dans un train, dans un espace confiné comme ça? C'est une épreuve pour un couple.
C'est une épreuve, c'est prendre un risque en effet. Je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, le film a pris le pas sur l'histoire. Mais en même temps, étant donné que moi j'ai réinventé une histoire au montage, c'est un risque qui rend aussi qui donne de la liberté. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression que j'avais besoin de en tout cas pour réaliser une première chose, j'avais besoin de partir de moi. Et en fait, j'ai rencontré Bruno Dumont et on a décidé de faire un film ensemble. Et au début, j'ai essayé d'écrire des choses. Et finalement, on s'est rendu compte très vite que la réalité prenait le dessus. Parce qu'il y avait des choses qui étaient dites et qui étaient... Puis on est parti avec des petites caméras. Donc du coup, il y avait cette histoire de l'intimité qui était tout le temps là, en fait. Et c'est vrai que le Transsibérien, que le huis clos dans cet espace confiné tout le temps, en fait, parce qu'on peut sortir très rarement... Dans mon film, j'ai pas mal triché par rapport à ça.
Il y a quelques séquences dans des hôtels, mais finalement relativement rares.
Oui, mais c'est en fait en réalité, on ne peut, enfin, à part si on sort du Transsibérien et qu'on en reprend un quelques jours, quelques semaines après, on peut pas sortir dans un hôtel. Les seuls moments où on peut sortir, c'est pour acheter à manger. D'ailleurs, il y a une scène dans mon film où je sors acheter à manger aux paysannes de certains villages, mais ça dure 45 minutes.
Il y a assez peu de contact finalement avec les habitants, avec les gens que vous croisez. Il y a peu de dialogue. C'est vraiment centré sur le couple, mais pas tellement. Vous n'avez pas sympathisé avec vos voisins de cabine.
On a pu sympathiser, mais j'avais vraiment envie d'axer l'histoire sur cette claustrophobie constante de ce rapport amoureux qui étouffe, en fait, cet enfermement du rapport amoureux.
En fait, vous prenez l'intimité et vous l'emmenez dans la promiscuité ?
Un peu. Oui, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Un psychodrame, presque, parfois. Il y a des tensions très fortes. C'est une manière d'interroger le couple. Et c'est surtout une manière de se donner chacun un regard. Alors, il y avait deux caméras. une numérique et l'autre...
Non, les deux, non,
les deux étaient numériques. Parce qu'il y a une réflexion à un moment sur... tu as l'instinct du cinéma, mais...
Ton intérieur est cinématographique et ton extérieur est numérique.
Une phrase assez jolie qu'il faudrait vraiment mettre en exergue de ce film. Donc deux caméras, une dans vos mains et une dans celle de Bruno Dumont.
En fait, on avait deux caméras qui étaient interchangeables. C'est-à-dire qu'on prenait, y compris les cassettes, y compris les caméras, en fait, on prenait chacun la caméra. Voilà, on n'était pas du tout... On n'avait pas une caméra chacun et au contraire, c'était extrêmement libre en fait.
Tournage ensemble et le montage ?
Montage seul. Seul pendant un an et demi. Parce que c'était compliqué étant donné que c'était moi qui étais à l'intérieur. J'avais besoin de me décoller de moi-même, etc. Et donc j'ai eu besoin de m'emparer de la matière. Et toute seule d'abord, et puis après, quand j'ai rencontré mon producteur pour la post-production, j'avais le désir de rencontrer un monteur ou une monteuse pour justement avoir un regard extérieur après tout ce que j'avais fait. Mais j'avais fait un premier travail en fait énorme que j'ai eu besoin de faire avant de travailler avec quelqu'un.
Un film qui est évidemment focalisé sur vous, sur votre couple, sur ces deux visages, ces deux corps qui tentent de trouver un espace dans l'espace un peu contraint de la cabine. Ça ne devait pas être simple d'ailleurs pour filmer avec aussi peu de recul sur les contraintes techniques. Je dirais la lumière est pas bonne, l'espace est très petit.
En fait, c'était pas du tout difficile parce que les caméras étaient tellement minuscules déjà que, c'était vraiment des caméras qu'on prend pour, je sais pas moi, mais pour aller en vacances. Que certaines personnes prennent pour aller en vacances. C'est à l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était des mini-DV avec des petites cassettes. Donc du coup, c'était presque un truc totalement... c'est devenu extrêmement normal, en fait, très très vite, dans le processus et l'évolution, en fait. Et donc du coup, non, alors après, oui, les lumières... En fait, ça n'a jamais été un problème, la lumière. Au contraire, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai gardé... Les images que j'ai gardées dans le film sont souvent en basse lumière, sont souvent et je trouve que ça donne un côté pictural, duquel j'avais envie et j'avais pas envie d'une image lisse du tout. Je trouve que ça parle du rapport amoureux aussi, de ce rapport amoureux un peu âpre, un peu
avec du grain, un peu rêche parfois, ouais. Et donc ça ne fait qu'accentuer ce sentiment là. Quelques extérieurs, alors évidemment, vous n'avez pas fait un grand plan fixe depuis la vitre de la cabine pour voir défiler les paysages de la Sibérie. On voit quelques éléments quand même un peu industriels, mais il y a assez peu de paysages. Ou plus exactement, les paysages que l'on voit, vous arrivez à les rentrer dans ce huis clos, à les rentrer dans cette cabine. Ils sont dans l'histoire.
Oui, oui, ils renvoient vraiment à la claustrophobie du rapport amoureux. Vraiment. Et en fait, c'est intéressant parce que, évidemment, dans les rushs, j'avais, mais je ne sais pas combien d'heures de paysages, mais des plans séquences, de je ne sais pas combien de. Qui en même temps, c'est parce que c'est assez étonnant le transsibérien, parce qu'en fait, on est vraiment en huis clos et enfermé totalement. Et on est tout le temps devant une espèce de vastitude, énorme, quoi. Et c'est bizarre parce que c'est très paradoxal, parce qu'on est encore plus enfermé. En étant face à ces paysages et cette densité et cette nature, donc donc j'ai vraiment fait le choix de retenir cette chose-là pour vraiment amplifier la claustrophobie et la tension en fait.
Alors dans ce film, on est tous dans une histoire du cinéma. Ça, c'est une réflexion de Bruno Dumont. C'est un peu comme tout à l'heure cette petite phrase qui était en exergue du film de Pierre Garniaud. C'est au fond quelque chose qui dessine un petit peu l'intention de ce film Sibérie, Johanna Price. On est tous dans une histoire du cinéma.
Oui, parce que c'est vrai que le point de départ quand même du film, c'était « il est réalisateur, je suis actrice » et donc faisons quelque chose ensemble.
Et c'est un peu comme si le spectateur aussi, finalement, devenait quelque part un réalisateur avec des moyens qui sont les siens, quoi, en jouant cette carte de la modestie. C'était un petit peu votre idée aussi, ça ?
Oui, c'est vrai qu'il y a ce rapport simple, en tout cas, et honnête...
par rapport au cinéma. Alors une histoire du cinéma contemporain notamment, où on voit très bien où se situent vos goûts et puis ce qui n'est pas votre goût. Par exemple, Bresson, c'est pas du goût de Bruno Dumont, hein, on croit comprendre. Vous partagez cette distance, on va dire, par rapport au cinéma de Bresson ?
Mais c'est-à-dire, vous pensez quoi par rapport à Bruno
À une séquence finale, quand vous arrivez à ce festival de cinéma. Alors, il est au téléphone, il fait quelques réflexions sur son cinéma.
Oui, sur le cinéma de Bresson.
Il taille un peu.
En fait, cette scène n'existe plus. Vous avez vu une version où il y avait cette scène et elle n'existe plus. Mais c'est pas du tout. Au contraire, il est dans une filiation de Bresson. Bruno, mais justement, c'est pour ça que j'ai coupé cette scène, parce que en fait, ça me plaisait beaucoup. C'était plus par rapport à donc cette fin où lui continue à vivre malgré le ce qui se passe avant et à vivre donc dans son travail, dans le cinéma, etc. Et il y avait donc cette interview et donc il y avait en effet cette réflexion sur Bresson, mais qui était pas du tout, enfin au contraire, il a vraiment, enfin il y a une juste, il expliquait, oui, il expliquait que c'était, enfin il expliquait un truc par rapport à la filiation en fait, et par rapport
c'était
à...
un peu comme si tu es le père, quoi, enfin c'est
oui,
c'est ce qu'on
oui c'est ça,
mais
oui, c'est vrai
séquence.
Que c'était un peu ça, et c'est pour ça que je l'ai coupé d'ailleurs, parce que ça m'intéressait plus du tout dans le film tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est devenu.
Le point d'arrivée de ce film, c'est un festival de cinéma. Où ça ?
À Vladivostok.
À Vladivostok,
c'est un
ancienne
festival
base.
De cinéma asiatique, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui était présenté ? Enfin, comment est-ce que vous avez ressenti ? Vous êtes ici au FID, à Marseille, à Vladivostok, c'était, j'imagine, une autre ambiance.
Je sais pas comment. Non, c'était des films asiatiques. Il y avait des choses très très belles, d'autres beaucoup moins, comme dans chaque festival. Vraiment la chose intéressante, c'était d'être à Vladivostok, quoi. C'est comme la pointe de l'Orient. C'est assez étonnant parce qu'en fait, j'y étais en septembre et tout le monde me dit mais il devait faire très très froid, etc. En fait, c'était un climat presque marseillais. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens comparent beaucoup Vladivostok à Marseille, parce qu'on peut se baigner, parce que... Donc du coup, c'était assez perturbant et par rapport à l'idée qu'on peut se faire de cette ville, de cet endroit. Mais c'est vrai quand même, la Sibérie est extrêmement dépaysante, c'est vrai que c'est complètement... Mais c'est vrai que Vladivostok n'est pas l'endroit le plus dépaysant, mais c'est quand même la pointe de l'Orient, donc c'est...
Pour conclure ce plateau, peut-être un petit tour de table, tour de micro. Vos projets, Joanna Price, sur quoi vous êtes en train de travailler ?
Alors, j'ai commencé un autre film. Voilà.
Et il ne faut pas en parler ?
Bah, je n'ai pas terminé, donc c'est je suis en
recherche, encore. En tournage, oui, déjà ?
Oui, oui,
ou
j'ai déjà tourné. J'ai déjà commencé à tourner. J'ai pas terminé. Ça se passe en Andalousie. C'est pour le moment, il y a qu'un personnage masculin, donc je ne suis pas dedans. Et voilà.
On
j'ai
le
pas
verra
envie d'en dire
dans
plus.
Une prochaine édition du CID, très certainement. Pierre Carniaux, sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment, le prochain projet ?
J'ai envie d'un film d'anticipation avec une approche documentaire.
Pas mal.
En quelques mots.
Et alors, peut-être plus précisément, parce que ça, pour le coup, ça me fait saliver, ça m'intrigue beaucoup.
On y parlera de choses absurdes, mais sur le ton de la conversation banale. Voilà. Et je réfléchis beaucoup à comment la parole colore le paysage. Et comment simplement, en quelques mots, et en ne faisant pas appel à rien d'autre que ce qui est devant nos yeux, notre perception s'en trouve complètement changée. Quoi. Voilà.
Christophe Bisson, sur quoi va-t-on pouvoir voir des images pour un prochain film ?
Là, je commence un projet de film à partir d'un texte de Jean Genet, Le Funambule.
Ah, un texte que je connais bien.
C'est beau. Hein.
Un texte qui a fait basculer d'ailleurs l'écriture de Jean Genet, puisqu'il n'a plus écrit de.
Il est passé au théâtre après.
De romans à partir de ce moment-là. Oui. Une histoire d'amour très forte.
Oui.
Je l'attends avec grande impatience aussi, comme merci. Chacun de vos trois films à venir. C'est terminé pour ce sixième et dernier FID Mag à l'occasion de la 22e édition du FID Marseille. Un FID qui s'achève ce soir, c'est la cérémonie de clôture, palmarès, et puis la projection d'un film de Jonathan Cahouette, Walk Away René, c'est un film canadien. Grenouille, de son côté, continue sa programmation de documentaires sonores jusqu'à demain, ce soir, par exemple, à 23h. Vous pourrez écouter Le modélisateur de Guillermo Koslowski. Et si la soirée du FID vous gonfle, ce qui, après tout, peut se comprendre, sachez que vous pouvez aussi vous balader de nombreux festivals tout à l'heure dans l'agenda culturel. De nombreuses possibilités ce soir de sortir et d'aller prendre le frais. En tout cas, sur l'antenne de Grenouille, à 19h, c'est Ernesto pour écouter de la salsa. Et je vous rappelle que toute la programmation de nos émissions, de nos feedmags et des chroniques sont sur radiogrenouille.com, les documentaires aussi. Vous retrouverez donc tous les feedmags de cette 22e édition du FID. Merci à Pierre Carniaud, Christophe Bisson et Johanna Price pour être venus sur ce plateau. Merci à Tony Regnault qui a assuré la réalisation de l'ensemble de ces émissions. Et merci, un grand merci du fond du cœur à tous les chroniqueurs qui ont fait un magnifique travail sur ces magazines. Léo, Julie, Julien, Sylvain et Lucie, encore merci à tous.
Sunny, are the 615 flights again?